suite un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bonjour à tous. Merci de rester fidèles à VOA Afrique. Merci surtout de suivre Votre Santé, Votre Avenir, votre programme de formation et d'éducation sur les problèmes de santé. Devant ce microphone, Nanit Talani. Cette édition sera consacrée au diabète gestationnel, un type de diabète qui se manifeste pendant la grossesse. Selon l'OMS, le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable. Il débute ou est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Il est susceptible d'entraîner des complications aussi bien pour la future maman que pour le bébé. Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Nous discuterons entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce diabète peut présenter pour le bébé et pour la mère.
Le diabète gestationnel peut amener à des avortements, à des malformations congénitales, créer une mort fœtale subite. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance.
Le docteur Timothée Nkieba répondra également aux questions que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Ça doit être dans la mentalité des femmes que dès qu'elles constatent qu'elle n'a plus de règles, elle doit se diriger vers un hôpital. La femme doit exiger à ce qu'on lui fasse tous les bilans possibles, des examens de routine.
Après cette discussion, nous vous proposerons carnet de santé avec Linor Moudou qui portera sur les sages-femmes.
Santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous invitons maintenant d'écouter notre entretien avec le docteur Timothée Nkieba.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Bonjour docteur Nkieba.
Bonjour madame.
Aujourd'hui, notre rendez-vous, c'est pour parler du diabète gestationnel. Notre première question vient d'Alain Kabongo de la RDC qui veut savoir ce que signifie le diabète gestationnel et comment se manifeste-t-il.
Le diabète gestationnel, c'est une forme de diabète d'abord. Cette fois-là, c'est un trouble métabolique dû à une intolérance au glucose qui est découvert au cours de la grossesse à partir généralement du deuxième trimestre. Sommairement, le diabète gestationnel, donc, il y a un diabète qui est découvert pendant la grossesse dû à une intolérance aux hydrates de carbone, au glucose ou bien au sucre.
Est-il fréquent que toute femme développe le diabète gestationnel ou bien il y a des femmes qui sont prédisposées à le développer?
Ce n'est pas fréquent chez tout le monde, mais ce diabète arrive souvent chez des personnes prédisposées qui possèdent des facteurs favorisants ou des facteurs de prédisposition qui peuvent les amener à faire le diabète. Il y a aussi des gens qui ne se trouvent pas dans cette catégorie qui, par hasard, font le diabète gestationnel.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces femmes qui présentent des prédispositions pour développer un diabète gestationnel ou un diabète en cours de grossesse?
C'est un groupe de femmes dont les antécédents, surtout l'hérédité, les antécédents personnels ou certains membres de famille ont déjà fait le diabète gestationnel. C'est le premier groupe de gens, le premier groupe de facteurs de risque.
Quel est le deuxième groupe de femmes enceintes qui présentent des facteurs de risque?
Deuxième groupe, on peut avoir les femmes qui ont un âge assez avancé. Donc ici, je voulais parler de l'âge de procréation. Donc les femmes qui ont plus ou moins 35 ans ou 35 ans plus, elles sont prédisposées à faire le diabète gestationnel. Les femmes qui ont un surpoids maternel ou encore carrément une obésité. Il y a des femmes aussi qui prennent de façon désordonnée ou excessive des médicaments à base de corticoïdes.
Par rapport aux origines ethniques, est-ce que certaines femmes auraient plus de prédisposition à développer un diabète en cours de grossesse?
Celles naturellement d'origine ethnique, comme elle dit, d'origine indienne, d'origine asiatique ou même la race noire. Voilà un peu quelques groupes de personnes qui sont prédisposées à faire ce diabète pendant la grossesse.
Comment est-ce qu'une femme qui est enceinte peut reconnaître qu'elle est en train de développer un diabète?
La symptomatologie du diabète gestationnel est plurielle. C'est comme tous les diabètes qui surviennent chez les gens. Principalement, la femme peut avoir l'envie de boire beaucoup d'eau, une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine, donc une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de pleurites vaginaux.
Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire?
Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer. Et finalement, après un bilan, on va faire la glycémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et va conclure à un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre qu'elle fait le diabète gestationnel.
Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour les fœtus, vous savez, c'est l'effet de type qui peut amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme.
Quelles peuvent être les conséquences?
Ça peut vous amener à des avortements ou carrément à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie?
Cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperglycémie fœtale, fœto-maternelle ou materno-fœtale, qui va transiter vers l'enfant et cela pourra induire à la longue une souffrance fœtale. Cette fois-là, c'est une souffrance fœtale chronique par intoxication due au glucose.
Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à la mort?
Ça peut aussi créer une mort fœtale in utero, ce qu'on appelle mort subite. Surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glycogénie ou une polyurie fœtale qui va être responsable d'excès d'eau ou d'une polyhydramnios. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement?
Lors de l'accouchement, par exemple, l'enfant qui va naître très gros, ce qu'on appelle un macrosome fœtal, ça peut avoir des répercussions et lors de la naissance. Si l'enfant est trop gros, il peut avoir, lors de son passage dans les voies génitales, là, l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sortie ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plexus brachial. Il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
C'est justement ça, parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications?
La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, la femme peut entrer en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme?
Comme je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas des césariennes, L'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures et des parties molles. Et même l'utérus là, qui est trop gros, va amener à des atonies utérines et parfois aussi à des hémorragies de poche partout.
Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à naître. Alphonse Boaki de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents. Donc, il faut un suivi après l'accouchement, parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
Grady Bieka Mutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel?
Oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes. Principalement, deux volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires.
Quel genre de conseils?
Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation des sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi c'est faire l'activité physique, faire une marche, faire plus des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs, par exemple régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même l'environnement de la femme.
Docteur, quel est le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux.
Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé?
Ces groupes de médicaments, des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec pincette parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du fœtus qui est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperglycémie, qui est un macrosome, qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux. Chez l'enfant, ça risque de passer au niveau du lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques oraux, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser les taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques oraux, de l'influence chez l'enfant. Donc, ça peut créer des hypoglycémies chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications, on les prend en charge médicalement.
C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Kéba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel? Comment est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel?
Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qui a des antécédents de diabète dans la famille et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme, il fait souvent exercice physique, il ne mange pas avec les baïques. Il programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de faire le diabète gestationnel. Donc, quand vous vous connaissez déjà que vous avez des antécédents, vous avez un âge assez avancé, vous avez un surpoids, vous avez un parent ou une sœur ou un oncle qui a déjà souffert de diabète, vous vous trouvez déjà prédisposé. Contrôlez ce que vous mangez, faire des exercices physiques régulièrement et ça vous prévient à faire le diabète. Et quand effectivement vous êtes diabétique, après une consultation, vous prenez des médicaments et ça vous prévient des complications.
Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est une consultation normale, mais seulement la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe souvent le diabète pendant la grossesse.
Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous vous exposez. C'est comme ça que, autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes. Parce qu'à chaque grossesse, il y a une stimulation ou une sécrétion des hormones en cascade dans le corps de la femme. À tout moment, quand une femme tombe enceinte, le placenta sécrète beaucoup d'hormones. Et ces hormones-là sont à la base de l'hyperglycémie parfois, quand surtout ça s'ajoute sur un terrain diabétique. Je l'ai dit tantôt que ces femmes-là étaient prédisposées à subir des césariennes avec des dystocies des épaules ou des fractures de l'épaule chez l'enfant et tout ça. Donc, naturellement, au fur et à mesure que cette femme-là a une grossesse, deux grossesses, donc chaque grossesse de plus expose cette dame-là de plus en plus. Naturellement, déjà, autour de la quatrième, de la cinquième parité, donc de la quatrième ou cinquième grossesse, on devra déjà penser à faire une contraception chez cette femme qui fait le diabète gestationnel pour l'épargner de beaucoup de complications qu'elle peut avoir. Et aussi, si c'est une femme très âgée, donc ce sont des personnes, des sujets, on doit veiller à faire une contraception pour éviter de le faire courir des risques déjà graves par rapport à leur état, qui vont être majorés par rapport aux grossesses qui vont s'ajouter.
Est-ce que le diabète gestationnel ne se développe que pendant la première grossesse ou la femme peut avoir des grossesses sans diabète et plus tard, peut-être à la troisième ou à la quatrième grossesse, développer un diabète?
Oui, ça peut arriver chez une femme à la première grossesse, surtout quand elle a des prédispositions. Comme aussi ça peut arriver à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Ça dépend des prédispositions de chaque femme. Donc il n'y a pas une ligne de démarcation qui dise que c'est seulement à telle grossesse ou à telle autre grossesse. C'est là où se trouve le bien fondé des consultations prénatales que les femmes doivent faire régulièrement.
Merci Dr Nkeba. Pour finir notre interview, un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, c'est seulement celle de leur dire que quand elles sont enceintes, déjà au premier jour, là, quand elle a remarqué au premier mois qu'elle n'a plus de règles, sitôt, elle doit aller consulter. Et lors des consultations, la femme doit exiger à ce qu'on lui fasse tous les bilans possibles, parce que dans certains milieux, il y a des bilans qui sont limités et tout ça, mais je pense qu'au moins partout, on est accessible à faire des examens de routine. Ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elle constate qu'elle n'a plus de règles, elle doit se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ses CPN. Et lors de CPN, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
Merci beaucoup, Dr Nkeba, de nous avoir accordé cette interview.
Non, c'est moi qui vous remercie pour la confiance.
Cette semaine, dans Carnet de santé, quels sont les risques du Covid-19 sur la grossesse? On en parle. Un expert partage quelques conseils pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans concernant la pandémie. Ensuite, une campagne de vaccination au Soudan du Sud vise à mettre fin à une épidémie de rougeole. Enfin, au Sénégal, les stylistes se mobilisent pour contribuer à stopper la propagation du nouveau coronavirus. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Nous sommes en dehors de nos studios afin d'observer la distanciation sociale. Il y a seulement quelques mois que le Covid-19 est apparu en Chine. Depuis lors, le virus s'est propagé à travers le monde et continue de susciter de nombreuses questions qui restent toujours sans réponse. Néanmoins, les scientifiques ont fait des progrès dans la compréhension de la maladie, notamment son impact inquiétant sur la santé
traiter des personnes avec des conditions médicales préexistantes. Mais que savons-nous des femmes enceintes? Quelle est leur vulnérabilité et celle de leur bébé face à ce virus si elles en deviennent infectées? Salwa Jafari nous rapporte ce que disent les centres de santé et de prévention des maladies des États-Unis, le CDC.
Le risque pour les femmes enceintes de contracter le Covid-19. Si elles sont infectées, seront-elles plus malades que les autres personnes? Voici quelques éléments de réponse des CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. Le Covid-19 est une nouvelle maladie et nous en apprenons toujours sur son mode de propagation et sur sa gravité. Les CDC ignorent actuellement si les femmes enceintes ont plus de chances de tomber malades à cause du Covid-19 que le grand public, ni si elles sont plus susceptibles d'avoir une maladie grave en conséquence. Il est toujours important pour les femmes enceintes de se protéger des maladies, d'autant qu'elles subissent des changements dans leur corps qui peuvent augmenter le risque de certaines infections. Comment se protéger contre le Covid-19? Les femmes enceintes devraient faire les mêmes choses que le grand public pour éviter l'infection. Vous pouvez aider à stopper la propagation du Covid-19 en prenant les mesures suivantes. Couvrez votre toux, évitez les personnes malades. Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Autre question, le Covid-19 peut-il causer des problèmes de grossesse? Les CDC ignorent pour l'instant, si ce nouveau coronavirus causerait des problèmes pendant la grossesse ou affecterait la santé du bébé après la naissance. Le Covid-19 peut-il être transmis d'une femme enceinte au fœtus ou à un nouveau-né? Les CDC ignorent pour l'instant si une femme enceinte atteinte de Covid-19 peut transmettre le virus qui cause cette maladie à son fœtus ou à son bébé pendant la grossesse ou l'accouchement. Aucun nourrisson né d'une femme atteinte de Covid-19 n'a été testé positif. Dans ces cas qui sont peu nombreux, le virus n'a pas été trouvé dans les échantillons de liquide amniotique ou de lait maternel. Si une femme enceinte a le Covid-19 pendant la grossesse, cela nuira-t-il au bébé? Les CDC ignorent pour l'instant si des risques sont posés aux nourrissons d'une femme enceinte qui a le Covid-19. Il y a eu un petit nombre de problèmes de grossesse de l'accouchement chez des bébés nés de mamans dont le test Covid-19 a été positif pendant leur grossesse. Cependant, il n'est pas certain que ces résultats soient liés à une infection maternelle.
Maintenant au Mexique, où certaines femmes enceintes évitent de se rendre dans les centres de santé pour recevoir des soins prénataux par peur d'être infectées par le nouveau coronavirus.
En 45 ans d'exercice comme sage-femme, Juanita Zarate a fait naître des centaines de bébés dans une communauté indigène du sud du Mexique. Aujourd'hui, la demande pour ces services est plus intense que jamais, car les femmes évitent d'accoucher dans les hôpitaux où elles craignent d'attraper le Covid-19.
Ce mois-ci, j'ai environ 4 prévues. Parfois, je ne les attends pas et elles arrivent. Par exemple, elle, Mariama, je ne l'attendais pas. J'en ai certainement. Il y a 5 ou 6 naissances prévues pour le mois de mai.
À la date du 28 avril 2020, le Mexique comptait officiellement 15 529 cas confirmés de nouveaux coronavirus et au moins 2627 décès. Mais pour les autorités sanitaires, le nombre réel d'infections pourrait s'élever à plus de 55 000. C'est dans un simple bureau à son domicile situé dans la municipalité d'Hidalgo que Zarate, seule sage-femme formellement préparée dans la région, s'occupe des femmes enceintes. C'est le cas de cette patiente qui avait initialement prévu d'accoucher à l'hôpital, mais qui a changé d'avis.
Je pense que nous nous sentons plus à l'aise ici. Nous sommes traités plus rapidement et nous recevons plus d'attention que lorsque nous allons à l'hôpital.
Près de 5 heures plus tard, Mariana a accouché de sa petite fille sous le regard de sa belle-mère, lui serrant la main, et Zarate qui a placé le bébé directement sur la poitrine de sa mère. De nombreux médecins désapprouvent le travail de Zarate, estimant que les sages-femmes travaillent dans des conditions insalubres. Mais avec une formation appropriée, elles pourraient prévenir jusqu'aux 2/3 des décès maternels et néonatals dans le monde, selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Cependant, le groupe estime que seulement 22% des pays ont suffisamment de sages-femmes.
Encadrer les femmes enceintes durant la pandémie de Covid-19. Pour en savoir davantage, je me suis entretenue avec le docteur Yolande Ijazi, directrice guinée de JPIGO, une organisation internationale de santé à but non lucratif affiliée à l'université Johns Hopkins.
Et vous savez, l'infection à Covid-19 est une infection assez récente. Et il y a très peu d'informations à ce stade. Néanmoins, je peux vous dire qu'il y a des recherches qui sont en cours pour vraiment comprendre quels sont les effets de l'infection du virus sur les femmes enceintes. Mais les données sont vraiment peu abondantes à ce jour. On sait que les femmes enceintes, c'est une couche vulnérable parce qu'à cause de la grossesse, il y a un déficit du système immunitaire et donc on peut les considérer vraiment à risque d'être touchées par beaucoup d'infections respiratoires, y compris celles du Covid. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important que les femmes enceintes prennent les mêmes précautions que toutes les autres personnes pour éviter l'infection au Covid. Qu'elles se protègent, les mesures barrières, lavage des mains, port du masque, distanciation sociale. Donc, il faut vraiment qu'elles appliquent tout cela. La pandémie est tellement importante. Et nous avons vu tous les dégâts qui se sont passés dans les pays vraiment développés. Nous qui sommes dans les pays en voie de développement, où les systèmes de santé sont assez faibles, nous devons faire le maximum pour pouvoir freiner la contamination communautaire et aussi pour assurer à nos femmes enceintes les services minimums. Parce que si elles ne viennent pas accoucher dans les structures sanitaires, si elles accouchent dans la nature, nous allons augmenter le taux de mortalité maternelle et le taux de mortalité néonatale et infantile.
Alors que la pandémie de coronavirus alarme la communauté mondiale, le Soudan du Sud est aux prises avec une autre infection virale potentiellement mortelle, la rougeole. L'année dernière, plus de 4700 personnes ont été touchées en raison de la faible couverture vaccinale. Voici le reportage de Chika Odwa depuis Juba. Le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Chegiri Namouni vit à Juba. 6 de ses 9 enfants sont décédés de diverses maladies. Le premier est décédé à 9 mois, un autre est décédé à l'âge de 10 mois, un autre est décédé alors qu'il faisait 4 pattes, environ 3 mois. Des millions d'enfants sud-soudanais ne reçoivent pas de vaccination de routine. Aujourd'hui, le pays est aux prises avec une épidémie de rougeole sans précédent, avec plus de 4700 cas confirmés et 26 décès depuis janvier 2019. En février, une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée dans ce seul hôpital pour enfants de tout le pays. Cette campagne vise à atteindre 2,5 millions d'enfants d'ici avril. L'une des raisons pour lesquelles la couverture vaccinale infantile est si faible est que les vaccins doivent être correctement conservés, notamment en les maintenant à des températures proches de 0 degré pour être efficaces. Nous sommes en mesure de garder ces choses à la bonne température à l'hôpital ici. C'est le plus important. L'UNICEF a fourni un réfrigérateur à énergie solaire. L'organisation aide à restaurer ce qui est connu en termes de soins de santé, comme le système de chaîne du froid, qui a été gravement perturbé pendant la guerre civile qui a éclaté en 2013. Des partenaires privés comme Continental Medical Supplies s'impliquent pour s'assurer que les médicaments vitaux restent au frais à chaque étape de la chaîne. Si vous cassez la chaîne, le produit sera détruit à 100%. Une autre raison pour laquelle la couverture vaccinale est faible, c'est que les gens ne sont pas informés. Parfois, je frappe aux portes s'ils ne sont pas venus et que je sais que cette maison a des enfants. Je vais frapper à la porte. Salut, nous faisons du vaccin. Pourquoi ne venez-vous pas? Ils diront, je suis occupé. Je dirai, puis-je amener vos enfants et je vais les ramener? Ils me disent, OK. Les efforts portent leurs fruits. Jusqu'à présent, la campagne de vaccination a touché plus d'un million d'enfants, dont Chegirina.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons discuté avec le docteur Timothée Nkiba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierro. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Musique. Hein?